Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez le comptoir du cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Aujourd'hui, on vous l'avait promis avant les vacances et on l'avait décalé la semaine passée pour cette émission un peu moins sérieuse qui était la deuxième cérémonie des Brutus. Donc aujourd'hui, on parle enfin d'Aucun autre choix, le dernier film de Park Chan-wook, avec au studio ce soir les collègues et néanmoins amis, Corentin, Justine et Aubry. Collègues et néanmoins amis, dis-je, parce qu'il sera bien question ici ce soir du monde du travail. 4 ans après Decision to Leave, son dernier film, un polar sage et très très long, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook revient donc sur les... Je vous vois faire des signes. Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook revient donc sur les écrans français avec Aucun autre choix, présenté à Venise en septembre, d'où il est reparti les mains tout à fait vides. Aucun autre choix, c'est une adaptation du roman américain Le Couperet de Donald E. Westlake qui avait déjà été porté à l'écran sous ce nom il y a 20 ans par Costa Gavras, à qui le film qui nous occupe aujourd'hui est d'ailleurs dédié. Et de la France de 2005 à la Corée du Sud de 2025, tout est pareil, en un peu pire encore. Cette histoire, en effet, est celle d'un salarié surdiplômé, Yo Man-so, récemment licencié de l'usine de papier où il officiait comme cadre à l'occasion d'une restructuration de l'entreprise, bel euphémisme pour signaler dans aucun autre de l'usine à une compagnie américaine et donc, de ce fait, le départ de nombreux employés. Plus d'un an plus tard, Yo Man-so n'a toujours pas réussi à retrouver du travail ou à trouver tout simplement un nouvel emploi dans un secteur extrêmement compétitif où les places sont rares et sa famille commence sérieusement à en être en difficulté. Son épouse arrête le tennis, son fils s'essaye à la rapine de téléphone et les chiens ne peuvent plus être nourris, sont remis aux grands-parents. Quant à la maison, symbole de la réussite de Yo Man-so, qui a racheté cette baraque au départ modeste où il est né pour en faire une grande maison d'architecte avec jardin et serre, cette maison donc elle est mise en vente et elle risque d'être achetée par des voisins que la famille méprise. Le désœuvrement et l'éloignement prolongé du monde du travail conduisent Yo Man-so à rater les quelques entretiens d'embauche qu'il obtient de plus en plus rarement, à tel point qu'il finit par prendre une décision radicale. Et là, je demande aux personnes qui seraient en recherche de stage ou au hasard qui seraient en ce moment sur la plateforme Mon Master de bien vouloir cesser d'écouter l'émission car je ne voudrais pas qu'on dise ensuite que j'encourage à la violente, même si quand même, quand on voit des masters avec seulement 4 places pour une quarantaine de candidats chaque année, on se dit que Yo Man-so n'a peut-être pas une mauvaise idée. Bref, son idée en effet est la suivante, persuadé qu'il peut facilement remplacer Choi Seung-chul, donc le manager d'une des entreprises les plus florissantes du marché du papier, il se décide tout simplement à le supprimer, seulement pour être certain d'obtenir le poste une fois Choi Seung-chul décédé. Eh bien, Yo Man-so fait préalablement passer une petite annonce dans une revue spécialisée de papier. Il invente de toutes pièces un poste aux attendus similaires à celui de sa future victime. Il reçoit un grand nombre de CV qu'il trie selon ceux qui ont plus de chances que lui ou non d'être retenus pour un poste de ce genre. 3 profils lui semblent meilleurs que le sien et ils devront donc, eux aussi, disparaître avant, évidemment, de supprimer le cadre de ces entreprises coréano-japonaises. Commence donc alors une série de tentatives de meurtre, cependant que tout se précipite vers l'effondrement autour de Yo Man-so et que Park Chan-wook déploie toute une puissance burlesque en complet décalage avec son précédent film Decision to Leave. Donc, ici, c'est une suite de séquences de critiques carnavalesques du capital et du capitalisme qui se déroulent sous nos yeux, sur un ton quand même résolument joyeux, farceur autant que farcesque, qui rend le tout très plaisant et surtout se démarque de la noirceur nihiliste et à mon sens détestable d'un Sympathy for Mr. Vengeance, par exemple, film du même réalisateur, sorti au tournant des années 90-2000, et qui mettait aussi en scène une succession mortifère d'événements où se retrouvait pris un jeune chômeur du fait d'une situation économique critique. A l'inverse de ce dernier film, aucun autre choix manie sans déplaisir un second degré plus volontiers potache, sans pour autant céder sur la colère sociale, et ne voit pas ses personnages comme des pions à supprimer les uns après les autres dans des conditions de torture les plus atroces possibles. Jusqu'à l'une des dernières séquences, chaque meurtre proprement dit est comme dégonflé dans sa violence, Park Chan-wook préférant mettre l'accent sur la longueur de la tentative, ou bien tout bonnement l'éluder par le biais de l'ellipse. Ainsi, au réalisme, voire au naturalisme sordide de Sympathy for Mr. Vengeance, aucun autre choix substitue-t-il un récit métaphorique et burlesque dans la veine de Parasite de Bong Joon-ho. La comparaison se tient à plus d'un titre, je pense, et on pourra en reparler, sans tout à fait délaisser au début et à la toute fin la représentation de l'usine et du travail, de surcroît, dans ce milieu monstrueux de la filière papier, avec des énormes rouleaux de papier qui sont les dernières images qu'on voit du film, et qui rappellent alors la fonderie où travaillait le protagoniste de Sympathy for Mr. Vengeance. Ce sont d'ailleurs, dans les deux cas, des lieux industriels où le travail et les instruments du travail sont terrifiants, menaçants. En somme, même si deux semaines après l'avoir vu, je ne nierai pas avoir quelques réserves dessus, plus de réserves en tout cas que quand je suis sorti de la salle où j'étais proprement enthousiasmé par le film, aucun autre choix reste à mon sens un des très bons films de ce début d'année, voire de cette année entière peut-être. La mise en scène est remarquable et Lee Byung-hun, fameux acteur coréen qui interprète ici le rôle principal, est très bon, aussi convaincant, quoique dans un autre genre, que José Garcia l'était dans le film de Costa Gavras. Mais assez parlé pour moi, sans plus attendre, je vous laisse la parole et Corentin, on va commencer avec toi.
Oui, alors le film de Costa Gavras, pardon, pas de Costa Gavras, de Park Chan-wook, oui, il est riche, mais voilà, il ne m'a pas totalement convaincu, je le dis directement, parce que c'est un film que je trouve assez peu mature en fait, pas dans le sens que ceux qui le verraient ou l'aimeraient seraient des immatures finis. Hein. Non, pas du tout, j'ai trop de respect.
Dis-le.
Non, mais j'ai trop de respect pour mon patron, un peu moins pour l'individu qui, en face de moi, me sert de camarade. Quoi. Mais que voulez-vous, ce sont les durs lois de la concurrence radiophonique. Hein. Mais plutôt dans le sens où, justement, toi, t'as pas trop aimé, j'imagine, Decision to Live. Moi, je trouve que Decision to Live...
C'est pas que j'ai pas trop aimé, mais c'est que j'avais trouvé ça vraiment profondément ennuyeux. Mais que je trouvais pas ça mauvais pour autant, attention.
Ah. Nuance. Decision to Live, je trouve que c'est une œuvre, que c'était une œuvre et que ça allait toujours, mais que c'est vraiment une œuvre mature pour le coup. Et je dois dire que c'est ça qui m'a convaincu au point de penser sérieusement que c'est là le chef-d'œuvre de Park Chan-wook. Et donc c'est difficile quand même de faire mieux après. Et ça se vérifie dans les faits avec ce No Other Choice, je trouve, parce que je le trouve d'un cynisme un peu facile, voire bête. Peut-être que c'est une tare du livre de base. J'ai pas vu le livre, mais je fais de toute façon le même reproche au film de Costa Gavras, à la différence peut-être que le cynisme semble bien plus traverser l'œuvre du coréen que du franco-grec, quoi. Mais oui, je trouve que son cynisme est un peu facile, un peu puéril. Et quand on a vu Decision to Live, quand on a vu à quel point ça s'étendait et que ça prenait en maturité aussi vis-à-vis de la violence, d'une relation en fait tout aussi torturée, parce que les personnages des films de Park Chan-wook sont à peu près tous torturés. La relation qu'il y a dans Decision to Live, ça change pas, hein, c'est la même chose. Hein. Mais sans toutefois tous les effets, je dirais, de petits malins qu'on retrouve dans Decision to Live. Alors, c'est très intéressant, c'est très riche, je veux dire, au niveau du montage. Voilà, c'est très bien, bravo. Hein, t'es un très bon réalisateur, t'es un très bon metteur en scène, tu nous fais plaisir, tu nous mets de la musique un peu pop, tu nous fais des scènes un peu cool, tu nous mets des scènes un peu. T'en reviens à du sadisme un peu, à ton sadisme un peu avec cette mise à mort, tu vois. Dans le vomi. Bon, c'est très bien, c'est parfait quand on est peut-être un adolescent, mais en tout cas, je dois avouer que ça m'a pas totalement convaincu, que je préfère en rester à Decision to Live et que c'est pas très grave, hein, Park Chan-wook, tu feras quelque chose de mieux la prochaine fois. Après, je dis pas, enfin j'aurais d'autres choses à dire dessus, d'autres choses que je trouve sympathique, mais voilà, c'est un film très peu subtil. En même temps, comme tu disais, c'est grotesque, c'est farcesque, mais voilà, il me convainc pas et il brille pas par ce qu'il peut dire, en fait, puisque en fait Costa Gavras disait un peu la même chose il y a 20 ans, je crois, à l'après qu'il ajoute l'élément intelligence artificielle, donc à la fin du film.
Oui, c'est très léger.
Par Shane Walk. Mais c'est assez similaire et je trouve que ça me semble pas énormément pertinent, même au niveau de la critique du capitalisme. Bon, il n'y a pas forcément. Enfin, disons que c'est plus une guerre de cadre qu'une guerre de classe, donc ça me semble pas non plus extrêmement pertinent. Voilà.
Oui, je suis. Enfin, alors, on reviendra peut-être. Je sais pas si vous avez tous vu Le Coup Près, mais on pourra reparler de ce film et de les comparer. Moi, je pense qu'effectivement, la critique du Coup Près est peut-être un peu plus fine que celle d'aucun autre choix. Aubry, de ton côté, est-ce que tu es plutôt du côté de Corentin dans une humeur un peu tiède, un peu mitigée, ou bien plus franchement emballé par cette dernière sortie d'un réalisateur que tu apprécies, si je ne dis pas n'importe quoi?
Oui, tu dis pas n'importe quoi. Et ben je suis franchement emballé par Aucun autre choix, même si j'avais un peu peur, je l'avoue, en amont de la séance, parce que j'avais pris le temps de revoir la veille Decision to Live, donc le dernier long métrage du cinéaste, comme vous l'avez dit, et qu'avec ce revisionnage, j'avais l'impression que Park Chan-wook, il était arrivé au terme de quelque chose, au moins thématiquement. Plus précisément, il y a un motif qui traverse toute l'œuvre de Park Chan-wook, c'est le désir, mais pas tant au sens amoureux ou sexuel, en fait, comme on peut souvent le lire dans les articles qui peuvent parler de cinéma du désir à propos de Park Chan-wook. Non, ici, le désir, c'est plus à un sens pur, entre guillemets, c'est-à-dire la prise de conscience d'un manque, littéralement, la frustration face à ce manque-là, et l'irrépressible besoin de combler ce manque. Dit autrement, désirer, c'est pas seulement désirer l'autre, c'est plus largement souhaiter instinctivement et ardemment ce qui n'est pas et ce qui ne sera peut-être pas. Et à cet endroit-là, quand l'objet du désir y montre toute son incertitude, chez Park Chan-wook, il devient une utopie particulièrement intense, une projection virtuelle à laquelle on donne tout le poids du réel. Et c'est en ce sens que j'ai l'impression qu'on peut véritablement qualifier le cinéma de Park Chan-wook de cinéma du désir. Parce que dès JSA, Joint Security Area, en 2000, c'est l'utopie de deux Corées, sinon réunies au moins fraternelles. Dans Old Boy, quelques années plus tard, tout le film n'est qu'un enchevêtrement de manque, que ce soit les vengeances, donc le manque de vengeance, le manque de sens à l'existence des personnages, le manque de l'autre, le manque de soi aussi, et puis toute une série d'autres manques qu'on pourrait lister. Dans Mademoiselle, c'est l'horizon d'une vie en dehors des carcans patriarcaux et d'un amour lesbien pour les deux personnages principaux. Et enfin, dans Decision to Live, c'est l'horizon d'un amour impossible, là encore, et de fantômes qui se poursuivent. Or, cette utopie, elle chancelle forcément, et Park Chan-wook, il a cessé de travailler cette déception de l'utopie. C'est là, à mon sens, que sa mise en scène, toutes les affaîtries du style Park Chan-wook, ce dont tu pouvais parler, Corentin, ses transitions toujours plus inventives et, on va dire, un peu audacieuses, ses angles improbables de caméra et les amples mouvements aussi de la caméra, bref, tout ce qui fait ce style qui le rend exubérant et exhibitionniste, hein, au possible, tout ça, ça fait sens quand il s'agit d'exprimer toute l'intensité de ces utopies déchues. De même, la musique, chez Park Chan-wook, elle est très souvent lyrique, et où, comme la mise en scène, elle frôle le kitsch, et tout est là. Dire par la mise en scène la plus lyrique possible, et donc le style le plus ostensiblement artificiel, le sentiment indescriptible de ces désirs déçus. Sauf que dans Decision to Live, cette impasse systématique du désir, elle semblait enfin trouver un terme, puisque dans le final du film, face à la mer, les personnages se retournaient en quelque sorte face à leur propre désir inassouvissable, et les regardaient en face, pour mieux les laisser fuir. Enfin, ces personnages remplis d'espoir de Park Chan-wook, ils s'arrêtaient de courir face à leur désir, et ils acceptaient de rebrousser chemin. Alors la question, du coup, à la sortie de ce nouveau film, No Other Choice, titre ô combien intéressant à ce sujet-là d'ailleurs, c'était de savoir où Park Chan-wook pouvait bien nous emmener après ce terme que semblait marquer Decision to Live. Et du coup, je vous cache pas que moi, j'étais dans cette crainte-là de qu'est-ce que le film va bien pouvoir nous raconter. Est-ce que ça va être une espèce de redite formelle et d'auto-caricature, en fait, dans le côté satire sociale, film de vengeance, des choses que Park Chan-wook, en fait, a déjà travaillé depuis 25 ans. Et du coup, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le film prend merveilleusement la suite de Decision to Live, en fait, paradoxalement, puisqu'il part cette fois-ci d'un personnage qui ne manque de rien, qui n'a pas de désir, qui en fait a tout ce dont il a besoin. Et c'est là que Park Chan-wook qui prend son propre cinéma à rebours et procède cette fois par soustraction. Il réactive et il revitalise les motifs de son propre cinéma, donc le lyrisme, la violence, le burlesque, l'absurde, la satire, en les prenant à l'envers. No Other Choice, c'est plutôt un film de désir qu'un film de satiété, complétude dont le film s'attelle en fait à révéler toute l'illusion et l'aliénation pendant près de 2h30. Et pour terminer sur des remarques un peu moins conceptuelles et barbantes, je dirais que le film, au-delà de tout ce que je viens de dire, bah tout simplement, il est très bien écrit et très bien rythmé, malgré, on pourrait y revenir, de petites longueurs. Le comique fonctionne à balle tout du long avec beaucoup d'efficacité, la mise en scène toujours aussi malicieuse, en fait, on peut dire, et c'est ostensible, de Park Chan-wook, trouve dans Lee Byung-hun un acteur et un corps malléable à souhait, et ça aussi, on pourra y revenir. Bref, c'est tout aussi intéressant que plaisant, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais moi aussi, je trouve que c'est un des très très bons films de ce début d'année.
Merci Aubry. Justine, pour ta part, est-ce que voilà, tu es plutôt du côté de Corentin ou du côté d'Aubry pour si ou bien d'aucun côté? Peut-être que juste le film t'a laissé complètement insensible à ce que on te racontait.
Moi, je vais faire une Aubry comme la dernière fois, c'est-à-dire entre les deux. j'ai beaucoup.
La chroniste de l'émission,
voilà.
J'ai beaucoup aimé l'humour macabre du film, le côté tragicomique avec ses ruptures de ton, une sorte de violence sans cesse désamorcée, cette satire sociale avec des scènes qui peuvent faire écho à très nombreuses personnes, par exemple celle de l'entretien d'embauche. Simplement, on a mentionné le couperet, ce que j'ai aimé particulièrement dans le couperet ici et donc une sorte de tragédie qui est traitée de manière extrêmement naturaliste et une critique du système capitaliste est traitée de manière beaucoup plus burlesque et farcesque, et ça m'a bien moins parlé. Il se trouve que donc j'ai vu le couperet après le visionnage, et les aspects que j'avais aimé chez Park Chan-wook, je les ai trouvés bien plus développés, et donc je trouve que le côté voix off, tragédie intime et développement de l'intériorité fonctionne mieux. Je trouve que donc il y avait quand même le côté politique qui m'a intéressée, mais qui n'est pas aussi développé qu'on pourrait l'attendre. Et Corentin, tu disais que c'est plutôt une guerre de cadre qu'une guerre de classe. Et je trouvais que ce questionnement était très intéressant, mais donc qui découle plus du scénario qu'ici la manière dont c'est traité. Et donc, par exemple, dans le couperet, la voix off dit, fait dire aux protagonistes, ce sont mes ennemis, ce ne sont pas mes problèmes, à propos des responsables de la situation du grand capital, de ceux qui sont aux manettes, on pourrait penser aux investisseurs américains dans le film. Or ici, le personnage n'accomplit pas d'acte révolutionnaire contre le capitalisme, de résistance au système par ses actions criminelles. Au contraire, c'est plutôt une fuite en avant. C'est une capitulation que résume le titre « No Other Choice ». Ce problème systémique, le personnage apporte une réponse individuelle avec ce trope cinématographique de la liste de victimes. Bien aimé une certaine coïncidence, puisque en rentrant chez moi après la projection, j'ai lu un livre qui s'appelle « La vie heureuse » de David Foenkin. C'est vraiment ces résonances imprévues entre certaines œuvres. Donc il se trouve qu'une partie du roman se situe en Corée du Sud. Et le livre est construit autour d'un rituel national sud-coréen qui consiste en de fausses funérailles. Et apparemment, c'est le livre qui me l'a fait découvrir, mais j'ai ensuite effectué quelques recherches, est vraiment une sorte de phénomène de société en Corée du Sud face à la pression sociale, à la violence symbolique subie par des personnes qui sont au chômage, qui ne correspondent pas aux attentes de la réussite sociale. Et lire ce roman immédiatement après mon visionnage du film a fait vraiment résonner un aspect du film avec ses observations sur la société sud-coréenne. J'ai noté quelques citations. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette résonance, c'est le développement de l'idée de lutte fratricide. Dans le film, on trouve vraiment ce motif du double. Le protagoniste s'en prend à finalement des personnes qui sont la réplique de lui-même. Et d'ailleurs, il y a cette question de l'interchangeabilité qui est tout le problème. Les travailleurs sont interchangeables au sein du monde du professionnel. Je trouve que au long du film planait la question du suicide, même si c'est jamais évoqué. Et il y a une sorte de dimension cathartique de la violence physique, donc violence physique qui répond à la violence symbolique éprouvée par le personnage. Et finalement, s'il se confronte à la mort des autres, cela lui permet d'éviter de sombrer commettre une sorte de suicide social. Si ce n'est un réel suicide. Quelques citations du livre que j'ai trouvées intéressantes, donc, qui concernent cet acte des fausses funérailles qui a beaucoup de succès en Corée du Sud. Être confronté à la mort vous permettait de retrouver le goût de la vie. La peur de l'avenir se faisait de plus en plus oppressante, renforcée par une dangereuse soumission à la réussite et une humiliation en cas d'échec. Cette société largement fondée sur l'apparence laissait de côté ceux qui ne parvenaient pas à atteindre ce qui était considéré comme le succès. Le roman traite plus frontalement la question du suicide, mais je trouvais que ces résonances étaient assez saisissantes la confrontation à la mort comme réponse à la pression sociale. Et dans ces meurtres fratricides du film, finalement, une réflexion sur l'aliénation et sur... la mise à mort d'un double de soi-même pour faire face aux difficultés traversées par le protagoniste.
Merci beaucoup à tous les trois. Il y a énormément de choses passionnantes dans tout ce que vous venez de dire, sur lesquelles on essaiera de revenir autant que possible. Alors, pour parler peut-être, mettons, de la question de la narration et du scénario sur lesquels on n'a pas encore beaucoup évoqué ici. Il me semble que le film, qui dure 2h20, aurait pu être réduit ou condensé, en tout cas. Même si je ne me suis pas ennuyé, jamais, je n'ai pas regardé ma montre, je n'ai pas eu de sentiment de longueur, parce que, et là on en reparlera aussi, mais la mise en scène, le montage font que le tout est très enlevé et qu'on ne s'ennuie donc pas. Il me semble que le scénario est peut-être un peu trop simple pour tenir si longtemps, et que Park Chan-wook l'étire un peu en longueur, sans pour autant prendre le temps d'explorer des arcs narratifs secondaires, comme, mettons, la question de la fidélité de la femme de Yeo Man-so, qu'il soupçonne de le tromper, ou celui de leur fils qui vole des téléphones, qui est une péripétie qui n'a pas un impact fondamental, en fait, sur l'histoire et sur la destinée du personnage. Par exemple, et puis c'est aussi une recommandation que je fais, mais si je prends un autre film sud-coréen qui traite à peu près de thèmes similaires, Barking Dog de Bong Joon-ho, c'est aussi une comédie sociale hyper sombre sur la situation économique en Corée du Sud, mais au début du siècle, il est tout début des années 2000. Et ça se passe cette fois-ci dans un grand ensemble d'immeubles. Et du fait de ce décor qui est beaucoup plus éclaté que l'ancrage domestique ici, même si Yeo Man-so va beaucoup ailleurs, c'est quand même cette maison qui revient et qui du coup... ramène à vraiment une unité narrative un peu simple, on va dire, sans que ce soit forcément grave. Bref, donc du fait du décor du grand ensemble d'immeubles dans Barking Dog, eh bien, plein d'arcs narratifs avancent en parallèle, finissent finalement par se rejoindre, tout en décrivant chacun et en dénonçant la crise économique qui frappe les personnages et le pays. Comme dans aucun autre choix, il y a dans Barking Dog une trame principale qui part d'un postulat absurde et fort, qui est qu'un des résidents, qui est un jeune doctorant, doit sécuriser un poste à la fac en versant un important pot de vin au doyen, et ce alors qu'il n'arrive pas à se concentrer à cause des aboiements d'un chien dans l'immeuble. Et il se résout à tuer le chien, et puis après, tout s'enchaîne de manière hilarante, d'autres chiens meurent notamment.
Je trouve ça drôle.
Oui, et dans ce premier film, en fait, Bong Joon-ho, il arrive à faire une comédie qui est vraiment très très sombre et qui est pas si éloigné d'aucun autre choix. Vraiment, à mesure que j'y repense, les films avec ce prédicat similaire de nécessité de commettre des actes absurdes pour sécuriser un poste dans un contexte critique socialement et économiquement, Bong Joon-ho, peut-être qu'il avec son film, il perd en lyrisme. Il perd en lyrisme, il gagne en finesse dans l'écriture et en précision aussi dans la caractérisation des personnages. Parce qu'Aubry, tu disais que le film était très bien écrit. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Je trouve que vraiment, moi, la force de À aucun autre choix, c'est le jeu, c'est la mise en scène, c'est le montage. C'est pas vraiment son écriture. En dehors de quelques scènes marquantes, je trouve que les dialogues sont un peu surfaits, sont moins bien. Après, à nouveau, j'avais vu, enfin, à nouveau, non. Après, j'avais vu le Costa Gavras la veille au soir, donc c'était un peu mon repère. Et il y a plein de problèmes avec le film de Costa Gavras, mais l'écriture, pour le coup, est assez irréprochable. Et donc, c'est clair que, à mon sens, ce film de Park Chan-wook ne brille pas par la profondeur psychologique de ses personnages, mais c'est mon avis. Et je sais pas, par exemple, si vous avez envie de réagir à cette proposition-là que je vous fais. Bah, Aubry, vu que t'en as parlé tout à l'heure.
En vrai. Effectivement, je pense que je me suis peut-être un peu emballé sur le très bien écrit, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas sa qualité première, mais en fait, je trouve qu'il est très bien écrit, parce qu'en fait, même en n'étant pas sa qualité première, je trouve en fait le scénario justement assez bon en fait pour que le film se tienne derrière. Et précisément, enfin, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, je suis pas sûr que l'intérêt du film, et en tout cas l'intérêt du traitement de scénario slash de ce bouquin que j'ai pas lu par ailleurs, je n'ai ni lu le bouquin ni vu le couperet de Gavras. Oh,
t'as pas vu?
Et ouais.
Si tout le monde a fait ses devoirs, hein, à part
bah,
toi.
Bah ouais, mais. C'est comme ça, mais oui, en fait, pour moi, l'intérêt même du traitement de Park Chan-wook pour moi est ailleurs, et il est plus dans effectivement le montage et la mise en scène en fait, davantage que dans le scénario et la profondeur psychologique. Et comment, pour revenir aussi sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de la maison dans le film, je trouve pour le coup que c'est assez, même si c'est au final pas si complexe que ça comme traitement, je trouve ça assez intéressant en fait, la manière dont il impose la maison, comme élément central, centripète on va dire, dans le film, puisqu'on y revient tout le temps, ce qui rappelle on va dire c'est quand même une tradition esthétique qu'on pourrait faire remonter très très loin, mais dont l'occurrence la plus récente et la plus marquante c'est sans doute Parasite. Je trouve qu'en fait ici ça fonctionne presque mieux, dans le sens où là on a un truc assez simple qui est que bon, la maison cristallise la complétude, enfin la satiété du personnage, et qu'au fur et à mesure du film, cette maison elle est démembrée, salie, réduite un peu, enfin par les événements et le fait que le personnage est progressivement déclassé.
Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que justement la maison je pense que le film aimerait faire ce que tu dis,
ouais,
mais qu'on ne sent jamais vraiment la dégradation de cette maison et de son personnage.
Ou alors, pour être plus précis, elle passe pas forcément à ce moment-là par la maison en elle-même, tu vois, qui finit par en ruine ou quoi, mais par des petits éléments extérieurs qui viennent parasiter le truc, c'est-à-dire qu'il y a ce truc des chiens qui sont plus là, la serre qui, en fait, au début est très très clean et qui l'est de moins en moins, le jardin même qui, au début, est vraiment qui a le côté havre de paix où tu fais ton barbecue, enfin vraiment, c'est le havre de paix libéral par excellence, et qui, en fait, devient un cimetière.
Le film se termine sous la pluie.
Ça se termine sous la pluie, tu l'as dit. Donc en fait, je trouve qu'en fait, la maison fait office d'organe extériorisé, parce que précisément, elle est cette espèce de truc extérieur au personnage, et en même temps, oui, elle a quelque chose de très organique, et ça va avec tout le reste du film. Enfin, on pourrait parler de l'importance de la terre, entre guillemets, dans le film, enfin, à travers la serre de Manso, les cadavres qui sont dans le sol de son jardin, son costume de jardinier meurtrier, toutes ces choses-là. Et je trouve que voilà, la maison elle cristallise ça sans pour autant bloquer le film, ce qu'elle pouvait faire dans Parasite, à mon sens. Enfin, disons que Parasite se réduisait peut-être un peu trop à ce dispositif de maison, et ça bloquait peut-être un peu le film, là où je trouve que aucun autre choix a beaucoup plus de perspectives de fuite, on va dire, en dehors de ce petit dispositif. Voilà.
Non, moi, j'avais une observation qui rejoint plusieurs choses que tu as dites, Louis, et ensuite ce que Brie a développé, mais sur la longueur du film, je trouve que le problème n'est pas tant la longueur qu'il ne développe pas certains arcs narratifs qu'on a envie de voir beaucoup plus explorés. Et d'ailleurs, les scènes les mieux écrites, j'ai trouvé que c'était de loin ces scènes familiales, par exemple cette scène conjugale après cette soirée dansante déguisée. Et je trouve que le film suscite beaucoup d'attentes avec le contexte récent qui est posé au début. Et ensuite, ça n'est pas vraiment rempli. Et moi, pendant toutes ces scènes qui relèvent plutôt du polar, j'attendais de voir bien plus développer et de revenir aux scènes familiales. Par exemple, le personnage de sa fille, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça explore la question de l'autisme. Et il me semble que c'est quelque chose que Park Chan-wook a rajouté, en tout cas qui est absent du couperet.
Punaise, la fille, elle joue excessivement mal dans le couperet, le oui, personnage de la fille. Oui. C'est horrible.
C'est terrible. Pardon,
j'étais vraiment crispé sur mon canapé.
Et inversement, là, c'est très intéressant et c'est mêlé à d'autres éléments, sa passion du violoncelle. Et c'est un personnage et une question donc, qui est posée. Une des rares fois où personnellement j'ai vu l'autisme abordé à l'écran. C'est finalement pas aussi développé qu'on pourrait l'espérer. Et je trouve que les scènes familiales, oui, sont de loin les plus intéressantes, avec aussi, par exemple, cette scène hallucinatoire dans la serre où il voit son fils dans une plante. Et il y a une mise en place d'éléments qui ne sont pas poussés à leur terme. Et. Cet horizon d'attente est également suscité par la scène initiale avec cette image d'Épinal, de la famille unie, cette scène solaire. Et on attend ensuite de voir sa mise à l'épreuve ou même sa déliquescence. Et le film prend un autre tournant. Et c'est quelque chose que je perçois assez souvent dans des polars ou des thrillers où parfois le cadre familial est extrêmement intéressant mais n'est absolument pas développé.
Puisque qu'on parlait de Parasite, on pourra revenir peut-être à la première séquence du meurtre, qui est une citation de Parasite, on peut le dire. C'est-à-dire que la séance comique avec le téléphone dans Parasite, quand on a toutes les mains, on a ce plan sur les mains qui se ruent sur le téléphone pour récupérer le téléphone, voilà, on a des plans assez similaires hein, là, où cette fois les mains cherchent à se saisir justement du pistolet, et puis l'intensité musicale qui rend au tout aussi une tonalité très comique dans les deux cas, hein, chez l'un comme chez l'autre, c'est-à-dire que on a Red Pepper Dragonfly du coup de Cho Young-pil dans le film de Park Chan-wook.
Allez, écoutez, c'est génial.
Inji no Kyodate de Gianni Morandi dans chez Bong Joon-ho. Voilà. Bon, à ceci près que le comique de la séquence de Wook joue aussi sur une situation vaudevillesque qui
oui,
intègre.
Oui, il faut peut-être la résumer un petit peu cette scène pour les personnes qui l'auraient pas vue.
Ah mais ils avaient qu'à la voir.
C'est pas comme ça que ça marche.
Oui, en fait, en gros, il y a un quiproquo avec des dialogues interposés, rendus quasiment inaudibles par la musique au volume excessivement élevé. Et dans ce dispositif, il y a trois personnes. Donc, il y a le mec que Yao Manso veut assassiner, il y a Yao Manso et il y a son épouse qui le trompe. Voilà, donc c'est trois personnages.
L'épouse du mec qui veut assassiner.
Et l'épouse du mec qui veut assassiner. Oui, pardon, mec, merci de me reprendre, Aubry. Ce sera la seule fois que tu pourras le faire. Yao Manso devient une sorte de médiateur entre les deux parce que le dialogue réel, il se fait, enfin, du moins, il se déroule sous nos yeux, mais il se fait véritablement entre l'homme qui s'apprête à se faire assassiner et son épouse. Yao Manso, il est au milieu et il ne voit pas que, du coup, il est vu par l'épouse du mec qui s'apprête à lui donner un grand coup de trophée, un grand coup qui fait référence d'ailleurs, enfin qui ferait référence aussi du coup à la pierre sorte de pierre sacrée porte-bonheur de Parasite, puisque l'un des enfants de Parasite s'en prend une dans la gueule, le pauvre. Voilà. Et donc on a une sorte de situation très vaudevillesque où le dialogue est excessivement drôle parce que on a une intégration diégétique de la musique cette fois-ci qui rend, comme je disais, inaudible, et en même temps on a Yao Manso qui en tant que qui est cette figure là du tueur mais qui est assez drôle. Il essaie de réaliser la tâche, mais avec difficulté et maladresse, dans des mouvements assez bouffons, notamment lorsqu'il retire les trois gants qui dissimulent l'arme, puis la couche de film plastique. Et là aussi, le comportement, tu vois, de Yao Manso, enfin, vous voyez pourquoi je m'adresse à toi, je ne sais pas directement, de Yao Manso s'avère comique dans la manière qu'il a de concevoir le meurtre, parce que bah, c'est pas tant un tueur, en fait, il s'inspire, il est pas tueur à l'origine, quoi, il est dans le papier. Il s'inspire donc de tout un imaginaire du tueur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser de traces. Et donc, il prend toutes les précautions possibles et imaginables pour ici veiller à ne pas déposer ses empreintes digitales sur l'arme. Mais il se rend compte tout bêtement aussi qu'il est gêné par ce film plastique qui ne lui permet pas de manipuler l'arme correctement. Et donc, de même, il n'y a pas forcément de génie dans ce meurtre. Tout se goupille très bien, hein, mais il n'y a jamais de génie du crime, du meurtre. Il y a une certaine ingéniosité dans le stérage des concurrents, certes, mais c'est avant tout la chance qui lui permet de s'en sortir, les circonstances, aussi invraisemblables qu'elles puissent paraître. Et du coup, ça m'a quand même pas mal rappelé le cynisme, que j'apprécie pas non plus, mais d'un Lars von Trier dans The House That Jack Built. C'est-à-dire un film, j'avoue, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que ça m'a paru assez peu supportable, mais le personnage joué par Matt Dillon est la figure par excellence du psychopathe qui conçoit une sorte d'esthétique du meurtre gratuit. C'est un architecte dans le film qui est fan d'Albert Speer, qui tue des gens de manière sadique et les conserve dans un hangar à poissons afin de réaliser une véritable construction humaine à partir de leurs cadavres. Et toujours est-il que von Trier tourne son personnage en dérision, lui qui ne prend, qui s'y prend aussi maladroitement, avec beaucoup plus de sadisme que dans le film The Wook, bon, sachant que le dernier meurtre pourrait paraître en fait tout aussi sadique qu'il aurait pu paraître en fait dans ce film The House That Jack Built. Enfin, toujours est-il que tout du long, le film est ponctué par par un dialogue entre Matt Dillon, qui se considère comme un génie esthétique du crime, et Virgil, qui ne fait que le descendre, lui dit « calme-toi mon grand ». Et en effet, c'est dans le film de von Trier, c'est à chaque fois, ce n'est pas un génie, c'est en réalité les circonstances invraisemblables qui lui permettent à chaque fois d'échapper à la police et donc qui le confortent dans son œuvre. Par exemple, le premier meurtre, bon, il tue une dame, le cadavre tombe de la voiture et il le traîne pendant tout le trajet en voiture. Il y a du sang donc qui le mène jusqu'à chez lui, voilà, il est foutu, et ben non, la pluie tombe. Et le sang, les rues sont lavées de sang. Voilà, donc c'est encore une fois les circonstances. Et il y a quelque chose d'assez comique, mais de toujours très, très cynique et qui fait très mauvais garçon. Et moi qui me saoule un peu, voilà.
Je suis pas sûr qu'il y ait ça dans le film de Park Chan-wook, pour le coup. Enfin, ou en tout cas, je le prends vraiment pas comme ça.
Il a de la chance, hein. Il aurait pu s'en
sortir.
Il a
de la chance, mais je le prends, enfin, sur un ton beaucoup plus comique, quand même, à mon sens.
Et pas cynique, en fait, fondamentalement. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a, ouais, une espèce de, comment dire, de générosité, premier degré, comment dire, enfin, d'engagement dans ce comique-là. Qui fait que le film échappe au cynisme, je trouve, ou en tout cas s'enferme pas dans le cynisme.
Générosité, je sais pas, mais manque de profondeur en fait, aussi. Moi, je trouve que le film se prend pas vraiment au sérieux et le film de Park Chan-wook se prend pas vraiment au sérieux, et ce qui fait que moi, il échappe au cynisme et à mon avis. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans le film aussi, c'est que tout le registre comique qui est pas présent chez Costa Gavras dans le couperet, tout le registre comique permet d'exacerber les mécaniques absurdes du monde LinkedIn dans lequel on vit, sans pour autant non plus donner dans le nihilisme. Et c'est ce qui fait que moi, à mon sens, aucun autre choix, il reste très intéressant.
Il donne pas de solution, hein.
Non, il donne pas de solution. Alors, je suis pas. On peut y revenir, mais. Juste, voilà, moi, je trouve que le film est intéressant quand même sur le monde du travail, parce que si aucun personnage ne dit jamais. Genre, cher réseau, grande joie de vous annoncer que. On a des scènes de séminaires d'entreprise, par exemple, où l'absurdité de la valeur travail est rabâchée à un niveau quasi sectaire, mais sur le mode comique à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, on a les salariés licenciés qui doivent suivre un séminaire psychologique, sophrologique, de bienveillance entrepreneuriale, et où on leur inculque par des pancartes qu'ils ne sont pas responsables de leur licenciement, qu'ils sont des personnes douées, et on leur fait répéter ces paroles quasiment en les psalmodiant et en se tapotant le front. Et on revoit régulièrement Yomanso faire ça dans le film, ce qui est à la fois un enjeu comique et en même temps quelque chose d'un petit peu plus profond et qui fait aussi l'intérêt de ce film-là, qui fait qu'il a des choses à dire intéressantes sur le travail, à mon avis, d'abandon, en fait, de part en part de sa nature de sujet. Voilà, c'est-à-dire que... on a cette nature d'abandon de la raison, en fait, aussi. C'est ça que moi qui m'intéresse dans aucun autre choix. Et tu citais cette phrase du couperet qui est très, très. Enfin, que j'ai aussi gardé, qui m'a marqué, Justine, quand le personnage de José Garcia a cette phrase pour parler des personnes qui suppriment, en disant que les actionnaires, ce sont ses ennemis, et bien ses concurrents, c'est son problème, et que c'est d'eux qu'il doit se débarrasser, même si c'est illogique, parce que la morale, c'est d'abord le chacun pour soi. Et là, en fait, dans cette absurdité, il y a quelque chose qui perce de ce que tu évoquais, Aubry, qui est très intéressant, d'un désir inassouvi, en fait, toujours chez Park Chan-wook, d'un truc un peu schopenhauerien d'agitation perpétuelle, d'inquiétude continue, et après de dégradation vers le bas en continu, en fait, en spirale pour le coup, qui moi me fascine assez dans aucun autre choix, mais sur un ton joyeux qui passe aussi par la mise en scène, qu'on peut peut-être évoquer d'ailleurs certaines. Je sais pas si vous avez des scènes, des transitions, des choses qui vous ont marqué, parce que c'est moi à nouveau la grande force de ce film-ci.
Bah, c'est peut-être plus global que juste une scène en particulier, mais sur, on va dire, le propos, on va dire, social, ou en tout cas ce que le film montre de cet univers-là, je trouve que c'est là justement aussi qui fait passer ce qu'il dit ou ce qu'il montre par la mise en scène beaucoup plus que par le scénario en lui-même, le contenu des scènes et les dialogues. C'est-à-dire que ce qui est étonnant quand même dans ce film de Park Chan-wook, même si on retrouve ça dans beaucoup d'autres films, et notamment dans sa trilogie de la vengeance, c'est un film qui est très très corporel. C'est-à-dire que en même temps qu'on a cette espèce de dégradation, de descente du personnage de Yeo Man-soo, on en vient de plus en plus au corps. Il y a cette espèce, à la fois il y a le jeu de Lee Byung-hun, il y a ce tic là dont tu parlais dans les séminaires d'entreprise, de se tapoter la tempe ou le cou, je sais plus.
En
se répétant des credos. Mais même en fait, dans les meurtres de Yeo Man-soo, il y a cette espèce de retour, comme tu disais, Justine, du symbolique vers le matériel. C'est-à-dire que quand on revient là-dessus, le social dans le film, en fait, le social, le fait de retrouver un poste pour Yeo Man-soo, il s'obtient grâce au concret. C'est-à-dire qu'il faut aller éliminer jusqu'à la matérialité même de ses concurrents. C'est une espèce de trajet monstrueux de rematérialisation, parce que ça part des profils abstraits de ses concurrents, les CV qu'il reçoit, qu'il recueille par le biais d'une société qui est elle-même fantôme, en fait, et il va faire le trajet matériellement pour les retrouver physiquement et les éliminer en tant que corps, en fait, là où lui-même, en fait, se met à dérailler dans le système et en tant que corps. Donc il y a ce truc très intéressant de le social du film se joue beaucoup plus dans le corps et au fond, donc dans le burlesque, que dans le scénario, je trouve. Et ça, je trouve ça assez intéressant pour le coup.
Moi, j'avais juste une question pour toi, Louis. Quand tu soulignes beaucoup que le film ne sombre pas dans le nihilisme, etc., est-ce que tu dirais que le couperet, qui est quand même où la tonalité tragique ressort beaucoup plus fortement, il me semble, ça sombre dans cette sorte de nihilisme?
Pas forcément, parce que je dirais qu'il n'est pas... Il est pas complaisant. Avec son personnage le couperet, et donc il se sert de la structure de l'enquête pour révolter son spectateur, pour tenir un discours, un propos, mais pas pour proposer une solution. Et quand tu disais, Corentin, il propose pas de solution, je suis d'accord dans un sens, ni Park Chan-wook ni d'ailleurs Costa Gavras, mais je pense pas qu'il ait à le faire. Je pense qu'il j'ai tendance aussi à faire ce reproche à des films quand ils se complaisent dans leur nihilisme, quand ils se complaisent juste à montrer de la violence pour la violence, etc., et à leur dire proposer autre chose au moins là, dans cette proposition, et cette proposition d'autre chose peut prendre la forme, oui, d'une révolte, d'une dénonciation, tout simplement. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin c'est pas au film de nous proposer une porte sortie. Il peut le faire, mais je ne considère pas qu'il l'ait à le faire, puisque son propos est déjà suffisamment une proposition, en tout cas un signalement que quelque chose ne va pas. Et pour tout dire, en fait, le couperet, effectivement, il jouait plus franchement la carte du polar, qui est ici complètement dégonflé, et il cherchait plus à créer une tension aussi, un vrai suspense. On commençait d'emblée par un meurtre, qui est le troisième sur les cinq que doit commettre le personnage de José Garcia. Il y a une structure en flashback qui est suivie d'une reprise après de la structure habituelle de la narration. Et puis, il y avait une présence policière beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus présente. C'est-à-dire que là, on est dans le film de Park Chan-wook, on n'est jamais inquiet pour Yeo Man-soo, du fait du côté burlesque que vous avez tous les trois souligné. Dans le film de Costa Gavras, on était beaucoup plus inquiet, pas tant pour le personnage que parce que à cause de la structure du suspense. Et précisément, moi, c'est ce qui fait l'intérêt du coup près aussi, c'est que ce qui est en jeu, c'est notre soutien ou non au personnage de tueur et au fait que c'est quand même quelqu'un qui tue des gens, pour lequel la structure narrative de l'enquête nous force à avoir de l'empathie, ou en tout cas auquel on est plus ou moins forcé de s'intéresser. C'est beaucoup moins dur ici, parce que voilà, le burlesque dégonfle un peu plus ça par effectivement le choix du bas corporel, du carnavalesque, pour et donc dans un sens moins immédiatement engageant sur les questions d'empathie, sur les questions de cynisme du propos, ou non, c'est plus quelque chose qui vient après coup que pendant l'expérience du spectateur du film lui-même. Et donc ce qui fait que aucun autre choix met beaucoup moins mal à l'aise, par exemple, que le film de Costa Gavras, qui met mal à l'aise parce que beaucoup de gens jouent mal, mais aussi parce que voilà, la structure est plus particulière.
Puis la dernière séquence du couperet est quand même assez, enfin je veux dire, assez nihiliste dans le sens où et assez bateau dans le sens où c'est véritablement, ah oui, on a un autre point de vue, enfin ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais on a un autre point de vue qui est celui d'un mec qui se dit « Ah oui, je vais faire la même chose, je vais reproduire ce cercle de violence. » Et donc la fin, elle me paraît quand même assez bateau.
Longtemps. Comment ? C'est une femme.
Oui ! Pardon, j'avais pas entendu.
C'est ok.
Non, et du coup, on a ce discours un peu bateau, en mode « Le cercle de violence, voilà, ne s'arrêtera pas, on vit dans une saucisse, des trucs comme ça, quoi. » Et moi, ça me semble, enfin, je me dis, c'est très... Enfin, pour le coup, le film de Park Chan-wook est très drôle, et plutôt drôle, on va dire. Mais voilà, j'avais pas besoin de 2h30 de film pour qu'on me dise qu'on vive dans une saucisse quand même. Enfin...
Non, mais il le dit mieux que d'autres.
Et ouais, et surtout, je trouve qu'il se.
Aubry.
Enfin, même si, entre guillemets, on pourrait essayer de réduire le scénario à ça, encore une fois, je trouve qu'en fait, tous les chemins qu'il emploie par. Que quoi ? Bref, tous les chemins qu'il emploie dans la mise en scène et de ça, je trouve que ça diversifie beaucoup plus cette espèce de propos de base qui est effectivement bon, une satire sociale comme on a déjà pu en voir. Il y a ce truc là du burlesque qui, en fait, comme tu l'as dit Louis, montre que quelque chose ne va pas, parce que le quelque chose qui va pas, c'est que tout d'un coup, en fait, Yeo Man-soo, il est déréglé, il est en décalage par rapport au reste des personnages, au reste de la société, et précisément ce dérèglement, en fait, il s'incarne littéralement parce qu'il passe par les corps.
C'est que effectivement, et même c'est ça qui fait que, à mon sens, donc le film de Park Chan-wook est supérieur à celui de Costa Gavras, c'est que même s'il était très bien écrit et très très bien joué par José Garcia, l'esthétique de Costa Gavras, c'est une esthétique de téléfilm. Je reprends ton mot d'ailleurs, Corentin, quand on en avait parlé. C'est vraiment, il n'y a aucun effort dans la réalisation. Et c'est ce qui fait que par moment, quand même, on est plus sensible au fait qu'il y a un côté bateau dans l'histoire qu'on nous raconte. Et je ferme mon incise.
Pas de souci. Mais du coup, oui, là, il y a ce truc, en fait, de. On voit aussi que quelque chose ne va pas par les corps, parce que, en fait, tout d'un coup, c'est le corps de Lee Byung-hun qui est en trop dans les plans, qui est en trop par rapport aux autres. Et là où le film, pour le coup, est un peu plus subtil que ce simple truc de « on vit dans une saucisse » ou quoi, c'est que ce « en trop », c'est pas un simple constat, c'est-à-dire que pour moi, le film ne tranche pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les corps des autres qui, en fait, sont trop réglés par le social, et le corps de Lee Byung-hun et, en fait, des personnages de ses concurrents qui va tuer parce qu'en fait, ils sont dans la même situation que lui, qui sont, pour le coup, des corps à l'opposé, complètement déréglés. Et en fait, le film reste un peu entre les deux. C'est-à-dire que Lee Byung-hun, de toute évidence, il en fait trop. Enfin, de toute façon, il tue des gens et tout. Et en même temps, les autres sont aussi trop réglés. Et je trouve que, par exemple, cette manière-là de faire passer le dérèglement par les corps, c'est particulièrement intéressant et vraiment, pour le coup, plus riche que la simple satire sociale qui passerait par le scénario. Et comment dire, même plus largement, il y a un truc assez fort aussi dans le film, c'est qu'il réemploie, on va dire, quelque chose qui est devenu un espèce de code esthétique du polar coréen, qui est la saturation. C'est-à-dire que dans le polar coréen des 25 dernières années, il y a un truc qu'on retrouve très souvent, c'est la saturation en termes de rythme, d'effets de violence, d'effets sonores, d'effets de mise en scène même. Et là, Park Chan-wook, il détourne complètement ça pour l'injecter dans cette espèce de portrait social et faire passer le portrait social là-dedans. C'est-à-dire qu'un film, par exemple, dont on se douterait pas qu'il est très comparable avec aucun autre choix, c'est un film aussi avec Lee Byung-hun, mais réalisé par Kim Ji-woon, qui s'appelle A Bittersweet Life, et qui est d'accord, peut-être d'ailleurs même le film qui a complètement fait exploser Lee Byung-hun, qui est en gros un film, un polar classique de mafieux, où Lee Byung-hun y joue un garde du corps, et en fait il se retrouve dans un espèce de fatras, de relations entre mafieux, et c'est lui en gros le dindon de la farce. Il se retrouve un peu sacrifié et il va se retrouver à se venger en gros de tout le reste de la mafia. C'est pas exactement la même situation qu'aucun autre choix, mais il y a des trucs très très comparables. La différence, c'est que le film de Lee Byung-hun, c'est beaucoup plus un film de gangster et un polar mafieux, quoi, alors que le film de Park Chan-wook, il tire beaucoup plus vers le social. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que du coup, il fait passer cette esthétique de la saturation dans la satire sociale, parce que d'un coup, ce dont on se rend compte avec cette saturation, c'est qu'elle tourne à vide, beaucoup plus en fait que simplement utilisée dans d'autres polars. C'est qu'ici, elle tourne d'autant plus à vide avec ces contrastes entre les corps, ces contrastes en fait même absurdes de réaction par réaction. C'est-à-dire que t'as toute la frénésie du personnage de Yeo Man-soo qui s'empresse d'enterrer des cadavres, d'empiler des cadavres dans son jardin et tout, pendant que la police qui passe ne voit rien. Et c'est des scènes très drôles d'ailleurs dans le film. Et pour le coup, ça déjoue l'espèce de cynisme dont tu parlais qu'on peut trouver chez Van Trier, parce que là...
Bah, c'est la même chose chez Van Trier. Hein. Il est en train d'enterrer des cadavres. Il y a des cadavres qui sont dans un hangar à poissons et personne ne voit rien.
J'ai pas vu The House That Jack Built, mais en tout cas, là, tu vois, dans aucun autre choix, cette espèce d'absurde, je trouve qu'il est pas juste cynique en mode regarder tout le monde est débile, etc. Parce qu'en fait, il vient montrer le fait que le personnage de Yeo Man-soo tourne à vide dans un truc qui, de toute façon, effectivement, n'a pas vraiment de solution. Et en fait, ça met en évidence un petit peu, autrement que par le simple scénario ou par le dialogue, les carcans sociaux dans lesquels, que fait jouer pour le coup le scénario du film. En recourant à cette esthétique-là, Park Chan-wook, il fait saturer la satire, quoi. Et oui, je m'arrêterai là.
Ouais, juste pour terminer, peut-être un truc pas mal. Oui, ce qui est intéressant dans le film, alors j'ai peut-être un peu craché dessus, mais au niveau du montage, de la mise en scène, disons-le, de la mise en scène, c'est pas toujours subtil, mais bon, acceptons qu'il n'y ait pas de subtilité, parce que oui, c'est du burlesque, c'est du grotesque, donc acceptons qu'il n'y ait pas de subtilité, voilà. Bon,
c'est dur pour le burlesque, ça.
Mais c'est très bien le burlesque, c'est très marrant aussi, on rit, oui, moi aussi j'ai ri devant ça. Mais comme tu disais...
C'est si méprisant pour le burlesque.
Mais non, ouais,
il n'y a pas de subtilité, c'est que dur et gratuit. Non, je...
Par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de la matière, en fait, on en a parlé du fait que il y a des trucs avec la météo, notamment pas mal dans le film. Bah, le film commence, comme tu dis, dans un cadre idyllique, vraiment très... très petit bourgeois avec cette maison, c'est-à-dire que c'est la famille classique hétéronormée, le père cadre, la mère qui a son tennis,
avec le fils. Concerne pour piano numéro 23 de Mozart.
Et voilà, exactement. Et donc tout le cadre semble absolument idyllique.
Publicitaire en fait.
Très bien, merci. On peut le dire. Hein. Avec ces rayons de soleil très. En fait, c'est un repas de midi. C'est un repas d'anniversaire et pourtant on sent déjà qu'on est en fin d'après-midi. C'est comme si de cette contre-plongée sur la famille qui se prend dans les bras, d'ailleurs le fils et la fille sont assez saoulés par ça, eh bien on a déjà ces rayons qui déclinent et la lumière m'a quand même un peu intéressé dans le film, parce que je pense à la séquence du il y a un rayon de soleil qui vient paradoxalement l'entretien d'embauche, merci, qui vient paradoxalement masquer le visage de l'interlocuteur, donc en somme une figure d'autorité qui a droit de vie ou de mort sociale et matérielle, donc en somme celui dont dépend son le retour à son petit confort, à son confort petit bourgeois, quoi. Et donc, voilà, il n'a pas de figure. Et donc, il est à la fois, comme tu le disais, Justine, une sorte de figure d'interchangeabilité. C'est-à-dire que, en fait, il pourrait aussi être à la place du recruteur, quoi. Mais plus encore, ce recruteur qui n'a pas de visage semble émettre de la lumière, l'éblouir. Donc la lumière, toute la lumière est concentrée sur lui, mais ce n'est pas dans le sens d'un spectacle dont il serait la vedette, pas encore dans le sens d'un spectacle dont il serait la vedette, puisque le spectacle morbide est à venir, puisque il sera la vedette, une sorte de vedette burlesque pour retrouver les attributs du confort de la vie matérielle, de sa vie matérielle. Donc enfin, dans l'immédiat, la lumière n'est pas celle, on va dire, d'une douche hollywoodienne qui mettrait en valeur la silhouette de l'acteur, mais plutôt le rayon de soleil violent, celui qu'il ne faudrait pas observer de face, quitte à se brûler tout simplement la rétine. Et voilà, il y a, je trouvais, dans ce film le motif intéressant du jour, de cette lumière du jour qui peut être, pour le coup, en fait, vachement plus agressive, d'autant plus qu'il y a quand même un meurtre qui se passe le jour, un deuxième qui se passe la nuit, un troisième qui se passe entre le jour et la nuit, au petit feu même, il ne le crame pas, mais au petit feu quand même. Et c'est dans cette lumière solaire, voilà, que je dis que le film baigne dès son ouverture. Et donc, en contrepoint, la remarque que je faisais, c'est que c'est sous la pluie que se clôture le film, mais en même temps, c'est dans cette pluie qu'on retrouve un peu l'esprit apaisé du retour au début, un retour qui n'est pas exactement le même, puisque le couple accepte cette fois, non pas de revivre, mais de rejouer les codes et les rituels de leur univers petit bourgeois, assez hétéronormé, puisqu'ils acceptent l'un d'avoir tué pour en revenir à là, et l'autre accepte, donc son épouse accepte de vivre avec la conscience que son mari est donc un meurtrier. Et donc qu'ils doivent leur confort.
Donc, il y avait du spoil dans cette émission.
Énormément d'hémoglobine.
Je le mettrai dans la description, puisque voilà, c'est bien de ne pas savoir forcément non plus si on ne connaît pas tout.
On pourra biper en allant voir
le film. Mais puisqu'on parle de la fin et puisqu'on arrive à la fin de cette émission, moi ce que je dirais pour terminer, c'est que moi j'aime énormément la fin du film aussi, précisément aussi parce qu'elle contredit contredit ce qu'on a pu proposer, cette tribune sur des questions de cynisme et de nihilisme. En tout cas, pas qu'elle contredit, mais qu'elle le nuance, notamment parce qu'il y a une contradiction justement qui est mise en scène, une contradiction qui refuse d'être tout à fait désespérée, avec d'une part la sublime délicatesse et une espèce de croyance en la beauté malgré tout d'une mélodie jouée au violoncelle par la fille donc mutique, autiste sans doute, c'est comme tu le disais Justine, Deio, qui est, elle joue d'ailleurs un de mes morceaux classiques favoris, sachez-le, voilà, le badinage de Marin Marais, et y a quelque chose de magnifique. Alors, je ne vous dis pas précisément que ce que c'est, on a déjà assez spoilé, mais dans la partition qu'elle choisit pour jouer ce morceau, comme un refus finalement d'une jeunesse, mais même d'une toute jeunesse, de suivre les voies indiquées, une volonté d'aller hors du balisé qui, moi, me touche énormément. Vraiment, c'est très très léger, c'est très très minime, mais je trouve ça assez fabuleux. Et donc, on a la partition de Marin Marais, et d'autre part, on a le bruit assourdissant, déshumanisé, terrifiant presque d'une usine du papier. Et bon, c'est pas exactement laquelle des deux images a le dernier mot, mais l'espèce de cohabitation, même minime, de ces deux images, de ces deux sons, eh bien, laisse, comment dire, entrevoir un espoir qui est ni le désespoir total de Decision to Live, à mon avis, ni la noirceur absolue de la trilogie de la vengeance, par exemple, et qui fait que le film a réussi de bout en bout, pour moi, à être réussi.
Je suis pas d'accord sur le désespoir de Decision to Live, mais c'est pas le débat. Mais non, par contre, la question, enfin, comment dire, je trouve la mention de la, comment dire, de la musique qui est jouée par la fille, intéressante, parce que
c'est moi qui le dis. Donc, bien sûr.
Non, mais parce que c'est un personnage autiste, et comment dire, c'est mine de rien pas anodin, et alors là je sais pas du tout si ça relève du scénario ou du roman de base, mais de faire passer effectivement cette espèce d'espoir, de résistance, ou en tout cas de voie alternative en dehors, on va dire, des carcans qui s'imposent au reste des personnages, de le faire passer dans un personnage d'enfant autiste, voire, comment dire, tous les trucs de Fernand Deligny, les lignes d'air, tous ces trucs-là. Ça pourrait être ici la réflexion. Moi, je dirais juste pour terminer sur un autre sujet, mais qu'il y avait un dialogue qui m'avait particulièrement marqué dans Decision to Live et qui, en fait, pour moi... résumait une partie du film, c'est le personnage du flic qui disait donc à la femme qui poursuit et qui l'aime, mais dont en fait leur amour est impossible. Il lui dit à un moment, j'y ai immédiatement su qu'on était pareil quand vous avez choisi de regarder les images. Les images, c'était en gros les photos du mari mort de la femme en question au début du film. Et en l'occurrence, un truc qui fait que là, le personnage de Mansou, au même titre en fait que le film, enfin qu'Aucun autre choix, est complètement, on va dire, opposé, ou en tout cas de l'autre côté thématiquement que Decision to Live, c'est le fait que Manso, il regarde pas d'image, c'est tout le contraire, il regarde pas d'image, sinon à la rigueur celle figée qu'on lui fait miroiter et qui préconçoit entre guillemets, jusqu'en fait dans cette séquence finale où il est un peu en béatitude devant les grandes machines et cette espèce de contrôle illusoire qu'il a sur cette grande usine de papier là, tout seul, il est écrasé dans le décor et d'un coup en fait son corps est rendu quasiment inexistant. Bref, pour moi, ouais, cette histoire d'image, ça résumait bien au fond ce qu'on peut lire de ce No Other Choice.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. C'est tout pour Aucun autre choix. En revanche, du choix, vous allez en avoir dans quelques instants, puisque c'est le moment des conseils du comptoir du cinéma.
Après la pub.
Après la musique. Voilà, je le disais, les conseils, c'est le moment des conseils et je vais commencer avec toi, Corentin, qui est à ma gauche. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour cette semaine ?
Je vous recommande un petit documentaire de 1 heure qui s'appelle La Cosa de Nanni Moretti, donc qui prend des petits moments saisis lors du débat de 1989 au sein du Parti communiste italien au sujet de la proposition du secrétaire du parti Occhetto de changer le nom et refonder le mouvement sur de nouvelles bases. Ce sera en effet le cas, comme on le verra aussi dans d'autres films de Moretti, Aprile notamment. Et donc c'est un film extrêmement intéressant. Déjà, il est très court, mais il reprend donc les débats. Voilà, il s'intéresse à chaque fois à des sections locales du Parti communiste italien où ont lieu des débats entre militants, vieux de la vieille ou petits nouveaux, déjà déçus parce qu'ils n'auront pas le temps de beaucoup s'engager, femmes et hommes, intellectuels et ouvriers. Voilà. Et le montage est assez intéressant parce qu'il est régressif, c'est-à-dire qu'on commence le 19 décembre 1980 en Sicile, puis on remonte, voilà, le 10 décembre à Gênes, puis ensuite on remonte le 7 à Bologne, le 3 à Naples, le 2 à Turin, etc. Et on fait différents bastions, on va dire, communistes italiens où ont lieu ces débats-là à un moment où donc oui, le mur de Berlin s'effondre, l'Union soviétique n'en a plus pour très longtemps et le parti communiste italien déjà bien lancé dans la voie de l'eurocommunisme ou du réformisme n'en a plus non plus pour très longtemps, l'ancien monde est terminé.
Merci beaucoup Corentin. La Cosa de Nanni Moretti, ça doit se trouver en DVD dans des bibliothèques diverses,
peut-être sur la Cinéthèque.
Oui, peut-être, oui, effectivement. En tout cas, où il vient, c'est une question de droit. Justine, pour la semaine, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Alors, moi, c'est assez improvisé, donc ce sera certainement moins convaincant que la recommandation de Corentin. Mais pour la résonance avec le film que l'on vient d'évoquer, La vie heureuse de David Foenkinos, si vous voulez en apprendre plus sur la question des fausses funérailles et leur lien avec l'aliénation... pour ceux de l'ENS qui nous écoutent, je recommanderais La Nuit du cinéma qui va se tenir en Cantor le 20 mars à partir de 22h. Venez nombreux, vous découvrirez le thème bientôt.
Merci beaucoup. Justine, quant à toi, Aubry, qu'est-ce que tu nous recommandes donc pour la semaine et même pour les deux semaines?
Ouais, ça va être une double recommandation sur les deux semaines. La première, très rapide, et un peu comme Justine, pour les gens qui nous écoutent et qui sont à l'ENS cette semaine, la pièce de théâtre des amis d'Enseigne ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche soir, Novecento. Ça va être très très chouette. Et voilà, venez nombreuses, n'hésitez pas. Nombreux et nombreuses, n'hésitez pas. Et sinon, pour revenir un peu au cinéma, aux mêmes dates, enfin en fait même le soir où cette émission sortira, commence le festival Écran Mixte à Lyon, avec un programme très très large, très très intéressant, que je vous invite à explorer, à piocher vos séances un peu partout. Il y a des séances au Comédia classiquement, mais aussi des séances gratuites dans les bibliothèques de Lyon et dans d'autres lieux. Et moi, je vous recommanderais juste deux programmes en particulier. La projection exceptionnelle, pour le coup, et qui vaut le détour, de la version intégrale du Rire et le couteau de Pedro Pino, film qu'on a pu chroniquer rapidement dans le comptoir du Festival de Cannes, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. L'occasion de voir. Alors, c'est très long, ça fait 5h30 avec entracte, mais ça peut être, pour le coup, un événement assez spécial en présence du réalisateur. Non, je crois qu'il est... Non, il est pas là. My bad. Mais voilà. Et le deuxième événement, c'est donc ça, c'est dimanche 8 mars. Ouais. La veille, le samedi 7 mars au soir, au Lumière Terreau, vous avez une soirée double programme autour de l'horreur crypto-gay, avec un double programme vachement alléchant pour le coup, puisque vous pourrez voir Hitcher et Hellraiser. Hitcher, c'est un film d'horreur assez chouette et vraiment drôle pour le coup, avec Rutger Hauer, que vous avez pu voir pour Blade Runner. Et Hellraiser, c'est l'adaptation culte du bouquin de Clive Barker par Clive Barker, un film pour lequel j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et donc je ne peux que vous conseiller de vous y rendre.
Merci beaucoup. Et enfin, pour ma part, pour ces deux semaines, et oui, je vous en dis plus dans un instant, mes recommandations sont les suivantes. D'abord, Barking Dog Never Bites, ou Barking Dog de Bong Joon-ho, que j'ai évoqué et que je vous recommande chaudement de voir, parce que ça rentre très bien en résonance avec ce film de Park Chan-wook, et aussi juste parce que c'est un très bon film à part entière, qui est le premier long métrage de Bong Joon-ho. Et il est disponible en ce moment sur Mubi, dans l'abonnement de Mubi, et puis à la location sur la Cinéthèque si vous n'avez pas envie de vous abonner à Mubi, ce que je peux aussi entendre. C'est vraiment un film donc très drôle, que je vous ai résumé tout à l'heure dans l'émission, donc je ne reste pas plus longtemps dessus, mais simplement s'il sent déjà toute la précision et l'humour de la mise en scène de Bong Joon-ho. Et vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Et puis mon autre recommandation, c'est un film qui sort le 11 mars, donc faites attention, un film italien qui s'appelle Il Maestro de Andrea Di Stefano, que j'avais eu l'occasion de voir en avant-première au Festival Sport, Littérature et Cinéma de l'Institut Lumière, en présence donc du réalisateur, et qui se passe un été pendant lequel un jeune champion régional de tennis qui a 14 ans et quelques est forcé plus ou moins par son père de faire des tournois de tennis tout l'été avec un coach qui est joué par Pier Francesco Favino, qui est un immense acteur italien qui est très mauvais en fait, et tous les deux sont très mauvais, et ça, le film se joue assez bien des codes du film de sport américain. Il fait une scène de training montage comme assez cliché, mais en fait, le personnage ne devient jamais meilleur. Y a une espèce de transfert culturel qui s'opère du film façon Rocky, pour prendre le plus paradigmatique de tous, vers la comédie italienne, donc vers des films de losers des années 70. Pier Francesco Favino, il joue un rôle que Vittorio Gassman aurait pu interpréter chez Dino Risi il y a 50 ans, et il le joue tout aussi bien. Donc pour ça... Au-delà de ça, c'est vraiment un film qui est extrêmement, extrêmement attachant, très, très drôle, très, très bien interprété, et vraiment qui a été une très bonne surprise pour moi, qui ne m'attendait pas à grand-chose et qui considère que c'est un des meilleurs films que j'ai vus dans ce début d'année. Vraiment, c'est un film qui n'est pas prétentieux du tout et qui arrive à emporter complètement. Voilà. Donc tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci infiniment à tous les trois, Corentin, Justine, Aubry, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 70, qui sortira un peu du format habituel. Il n'y aura pas de débat et il n'y aura pas de conseils. C'est pour ça qu'on vous a dit pour les deux prochaines semaines. Je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez dans une semaine pour savoir comment on fêtera cet épisode 70. Et puis, nous, on se retrouvera toutes et tous dans deux semaines. En tout cas, peut-être pas dans cette équipe-là, mais sur le mode du débat, pour parler de décidément incontournable Marty Supreme, qui peut-être d'ici là aura été sacré aux Oscars, on ne sait pas. Branchez-vous, Transistor, donc, ne manquez rien de tout cela, qui sera comme d'habitude, évidemment, disponible sur transistor.fr, cependant que la table se casse. Ce sera comme disponible d'habitude, comme d'habitude disponible sur transistor.fr, là il est tard, et sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et puis si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas, il ne reste pas beaucoup d'épisodes avant la fin de saison, donc lancez-vous quoi. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, à bientôt, vive le cinéma et vive Transistor.